Bonjour à tous, en particulier à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Bravo aux courageux d'être revenus après une journée dense et intense hier de partage autour de l'exemple des témoins qui nous ont précédés, témoins de la foi, témoins vivants. Et donc c'est une grande joie pour moi d'être avec vous ce matin, de m'insérer dans cette série de prédications qui vous a été proposée en rappel des 500 ans de la Réforme. Alors c'est vrai que ceux qui étaient là hier ne sont pas arrivés jusqu'à la Réforme, mais pas loin. La Réforme, 16e siècle et jusqu'à nos jours, ce sera pour le 27 janvier, pour ceux qui ont envie de revenir, deuxième partie de ces cours décentralisés. 5 points essentiels, sola scriptura, sola gratia, sola fides, solus Christus et soli Deo gloria, ou si vous préférez en français, l'Écriture seule, la grâce seule, la foi seul, Christ seul et à Dieu seul soit la gloire. Ce n'est pas les cinq piliers de la foi chrétienne, mais plutôt cinq points essentiels pour nous rappeler notre héritage. Et c'est légitime de se les rappeler. Et ce matin, j'ai trouvé que c'était un défi de traiter avec vous la foi seule. Parce qu'en y réfléchissant, je me disais, mais on ne m'a pas laissé le plus simple. L'Écriture et la grâce, c'est des dons de Dieu. Christ et Dieu le Père, c'est des personnes. Mais la foi est complexe, chers amis, parce qu'il y a une part de Dieu qui est essentielle, mais il y a aussi une part de l'homme. Dieu ne change pas, et l'homme change. Parce que l'homme se laisse parfois dominer par ses émotions. Et les émotions prennent même le dessus sur la foi. Et ça, c'est pas simple. Parce qu'il nous arrive dans nos vies humaines, et je suis bien placé pour le savoir, des temps de difficultés, des temps de crise, des temps où notre foi est mise à rude épreuve. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais simplement vous partager une anecdote personnelle. En mai dernier, j'ai perdu ma maman, qui est décédée. Et même si on pouvait un petit peu s'y attendre, parce qu'elle n'était plus en très bonne santé, il y a à peu près de ça 5 ans, elle m'avait dit « Le jour de mes obsèques, c'est toi qui prêches. » Super. Je l'ai regardé et j'ai dit « Non, 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 ça je ne peux pas faire. » Elle m'a dit « De toute façon, tu n'as pas le choix. » Alors, c'était difficile de dire non à Madame Milman. Et je me suis retrouvé bien embêté. Parce que dans ma famille, à part elle et moi, et mon père qui est en chemin, si je puis dire, bien que je n'ai jamais trop su où il en était, nous sommes les seuls à avoir pris l'engagement de suivre Christ. Et en plus, une des difficultés, c'est que j'ai une sœur qui attaque de façon systématique tout ce qui est foi chrétienne. Et j'allais dire de façon systématique et pas toujours très futée. Ça, c'est mon avis. Évidemment, cet événement s'est produit en plein dans la semaine de l'Ascension. Alors, vous imaginez devoir traverser la France pour quitter ma chère Alsace et aller jusqu'à Loche en train. Ce n'était pas une mince affaire, parce que des trains, il n'y en avait quasiment pas. Tout était bouché, tout était bondé. Mais j'avais une chance, c'est qu'à Loche, il y avait un ami pasteur que certains connaissent, qui s'appelle Raphaël Hansenberger, qui était là. Et Raphaël a été extraordinaire parce qu'il a su gérer, en mon absence, les difficultés et la complexité de ma propre famille. Je lui ai dit, quand tu vas aller les rencontrer pour préparer les obsèques, tu es en terrain miné. Ça ne va pas être simple. Et puis, en même temps, il avait une certaine légitimité parce qu'il avait été visiter mes parents, il avait été présent. Maman, quand elle était à l'EHPAD, avait eu la visite de l'aumônier catholique et elle avait dit tout de suite à ce brave homme, « Moi, je ne suis pas une papiste, alors s'il vous plaît, vous allez me chercher un aumônier protestant et vite fait. » Ça a été radical et c'est Raphaël qui a été invité à venir. Et puis, dans les contacts téléphoniques que j'avais avec Raphaël, il me dit, « Bon, on est bien d'accord, hein. C'est toi qui prêches. » J'ai dit, mais tu sais que ce ne sera pas simple. Et il a eu cette phrase remarquable, il m'a dit la chose suivante. Te complique pas la vie, on prie pour toi. Dis-nous simplement en quoi la foi de ta maman a été marquante pour toi. Extra. Merci Raphaël, parce que là, j'ai eu la porte d'entrée pour le message et de là est née une prédication sur la foi, l'espérance et l'amour à partir d'un Corinthiens 13, parce que c'est vrai que ma maman a marqué ma foi. Elle disait, en parlant de sa foi, elle disait « Moi, j'ai un peu la foi du charbonnier qui m'est tombée dessus à un moment donné. » Elle a toujours cherché à la communiquer à sa manière, pas forcément par des paroles, mais par des actes remplis de cohérence. Et maman voulait que nous allions au bout de nos convictions. Ça, c'est une valeur qu'on a compris tous les cinq frères et sœurs, même si les convictions sont très diverses. La foi suppose beaucoup de cohérence. Et c'est une des choses que maman m'a laissées, qu'elle m'a apprises et qui est encore extraordinaire dans ma foi aujourd'hui. Alors ce matin, pour illustrer un peu les choses, je voudrais aborder quatre points à propos de la foi. Premier point, la foi, c'est un don de Dieu. 1 Corinthiens 12, 4 à 9 nous dit « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit. » Des dons pour l'utilité commune. La foi est un don de Dieu. La foi fait donc partie de cette liste des dons qui est rappelée en 1 Corinthiens. Et elle est présentée clairement comme quelque chose que Dieu donne. Alors évidemment, puisque nous sommes dans les 100 ans de la Réforme, je n'ai pas pu résister au plaisir de me jeter sur l'institution chrétienne et de vous sortir une définition de la foi écrite par Jean Calvin. Il dit la chose suivante. La foi a pour objet le seul vrai Dieu. À cette affirmation, il faut rajouter celle de croire en Jésus-Christ qu'il a envoyé. Car autrement, Dieu serait très loin de nous. Si le Fils ne nous éclairait pas par sa lumière. Comme il a été dit qu'il fallait que le Saint-Esprit nous incite à rechercher Jésus-Christ, il convient de ne chercher Dieu nulle part ailleurs qu'en lui. L'intelligence de la foi ne consiste pas seulement en une connaissance de l'existence de Dieu, mais surtout en une compréhension de sa volonté pour nous. Ainsi, la foi est une connaissance de la volonté de Dieu tirée de sa parole. Tout est dit en quelques phrases. La foi chrétienne est donc quelque chose qui est à la fois simple et complexe. Elle est simple, il suffit de croire. Ne crains pas, crois seulement, a dit le Seigneur à plusieurs personnes. Et le premier miracle de la vie chrétienne est justement cette rencontre avec Jésus-Christ. Cette rencontre personnelle qui ne se réalise que quand le Saint-Esprit qui agit en nous nous a convaincus de péché et va nous convaincre de justice et de jugement. Le message de l'Évangile commence par la connaissance de Dieu, comme le rappelait Calvin. Une connaissance qui n'est pas intellectuelle, mais c'est une connaissance réelle, relationnelle. Il existe un Dieu créateur de toutes choses qui s'intéresse à nous. Il n'est pas le grand horloger, comme le disaient les philosophes à l'époque des Lumières, celui qui a créé sa grande horloge, à savoir la Terre, et qui la laisse se débrouiller et fonctionner tout seul. Dieu est plus que ça. Dieu est venu jusqu'à nous par Jésus-Christ. La connaissance de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais on ne peut pas connaître totalement Dieu. Et pourtant, c'est lui seul qui est l'objet de notre foi. Connaître Dieu suppose de comprendre qu'il y a un abîme qui nous sépare de lui et qu'on ne peut pas combler seul. Ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par nos efforts, par nos mérites ou quoi que ce soit d'autre que nous pouvons franchir le fossé. C'est ce que Dieu a fait par Jésus-Christ qui est venu jusqu'à nous, qui a donné sa vie pour nous. Quand nous comprenons que nous avons besoin d'un sauveur personnel, nous comprenons que Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ 100% homme, 100% Dieu, qui nous a réconciliés en donnant sa vie. Et là, j'imagine que je rappelle des choses que vous avez entendues dimanche passé pour ceux qui étaient là. Christ, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et les débuts de l'histoire de l'Église qu'on a vus avec ceux qui étaient présents hier nous le rappellent. À un moment donné, des hommes ont voulu rajouter d'autres médiateurs entre Dieu et nous. En plus de Christ, il fallait qu'il y ait les sacrements, les saints, etc. Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est lui seul qui nous permet de connaître vraiment qui est Dieu. La foi est donc un don de Dieu. Deuxième point, la foi qui sauve ou la foi qui guérit. Et là, je citerai simplement deux versets tirés de ce que Luther appelait la cathédrale de la foi, à savoir l'épître de Paul aux Romains. Car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. L'Évangile est une puissance de salut. Il y a de quoi en être fier. L'Évangile témoigne de la justice de Dieu. Nous qui étions séparés de Dieu, destinés à la perdition, nous sommes déclarés justes. Luther disait, à la fois juste et pécheur. Il a commencé par être tourmenté parce qu'il se reconnaissait pécheur. Il ne trouvait pas le salut dans les œuvres. Et c'est après que justement, en découvrant le message de la grâce, il a dit, je suis déclaré juste. Quoi que je fasse, je suis déclaré juste, non pas par rapport à ce que moi j'ai fait, mais par rapport à ce que Christ a fait pour moi, comme pour toi. Ceux qui connaissent un peu la partie d'histoire de l'Église que nous avons survolée hier, des premiers siècles, nous aident à comprendre deux choses. Dans les premiers siècles, la foi chrétienne en Orient et en Occident avait quelques nuances. En Occident, avec Augustin, ce qui importait, c'était la foi dans sa dimension juridique. Le salut est acte juridique. Christ est notre avocat. Nous sommes déclarés justes, non coupables. Le verdict est tombé. En Orient, c'est la dimension médicale du salut qui était mise en avant. Entendez, Jésus-Christ est le divin médecin qui guérit des maladies spirituelles qui nous affectent. La foi qui sauve, la foi qui guérit, la foi qui est le moyen de la grâce. Ça, je crois que ce sera pour dimanche prochain que vous entendrez parler de la grâce seule. La foi fait les deux. Elle est acte juridique et acte médical. Et quand on parle d'acte médical, il s'agit clairement d'une guérison spirituelle. Ce n'est pas seulement la question des maladies physiques qui est mise en avant. J'ai malheureusement parfois entendu dire à certaines personnes, à ceux qui souffraient de troubles physiques ou de troubles psychologiques, qu'ils devaient demander la guérison. Jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Mais quand j'entends derrière cette phrase assassine qui tue, si tu n'es pas guéri, c'est que tu manques de foi. Excusez-moi, mais c'est quelque chose qui me révolte. Il est vrai que dans des moments, on peut être assailli par le doute. Le doute peut nous saisir. Mais croire que si la guérison ne vient pas, guérison physique dans notre corps, elle pourra venir dans ce monde ou pas, on n'en sait rien. Croire que c'est obligatoire et que Dieu, excusez-moi du peu, est un bouton-poussoir distributeur de miracles, me dérange. Je suis désolé de tordre le cou à certaines idées comme celle-là, mais ça me semble important. Dieu n'est pas un distributeur de miracles dans lequel il suffit d'insérer une prière et vous avez comme la bouteille d'eau ou la tablette de chocolat quand vous appuyez sur votre distributeur, ce qui tombe et vous pouvez vous en saisir et vous délecter avec. Certains d'entre nous vont rester avec des maladies physiques, avec des infirmités tout au long de la vie. Même des maladies qui sont dites psychologiques ne supposent pas forcément une guérison automatique. Une maladie en elle-même peut parfois être même l'occasion de glorifier Dieu. Oui, la foi sauve. La foi guérit des maladies spirituelles. Parce que nous sommes guéris des maladies spirituelles, nous sommes en communion avec Dieu. Et nous savons que dans l'étape d'après, nous serons pleinement restaurés, avec de nouveaux corps bien plus fonctionnels que ceux qui sont présents ici-bas et qui commencent à rouiller comme le mien. La foi sauve, la foi guérit le fond du problème, mais pas forcément toutes les maladies physiques ou psychologiques. Et pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que nous l'avons dit, la foi a pour seul objet Dieu, et Dieu seul, et pas nous. Si la foi est un don de Dieu, si la foi guérit et sauve, il y a un autre aspect qu'il nous faut souligner, c'est là le troisième point. La foi fait partie du caractère du chrétien. Préparez les tomates, les amis, parce que là, on aborde un sujet délicat. Nous lisons dans Galates 5, 16 à 24, un texte que j'apprécie beaucoup. « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. » Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu, mais le fruit de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Dans cette lettre aux Galates, au chapitre 5, que je viens de lire, un extrait, il est question du fruit de l'esprit et du fruit de la chair. Une opposition qui va même plus loin, car au-delà de la réalité du fruit, il y a cette idée d'une marche par l'esprit ou d'une marche selon la chair. Deux choses qui s'opposent. La foi, qui fait partie du fruit de l'esprit, est donc dynamique et vivante. Elle n'est pas l'être morte, elle ne correspond donc pas à une réalité qui ne change pas ou qui ne bouge pas. La foi fait aussi partie de notre caractère. Elle est appelée à se développer, elle est appelée à grandir au fur et à mesure que vous et moi, nous avançons pas à pas dans la vie chrétienne. La foi fait partie de notre caractère. Oui, nous sommes invités à progresser spirituellement. D'où l'idée fondamentale de cette marche chrétienne, une marche par la foi et non par la vue. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut marcher en fermant les yeux, ce n'est pas ça que dit le texte. La foi suppose d'aller au-delà, de ne pas se laisser piéger par la réalité apparente de certaines choses. Être chrétien, ça ne signifie pas avoir le goût, avoir l'apparence du chrétien, mais au fond sans l'être. C'est bien plus, c'est être une nouvelle personne et donc agir en conséquence. Dans la théologie du Moyen Âge, on a mis l'accent sur une chose, on l'a vu un petit peu hier, sur ce qu'on a appelé les 7 péchés capitaux. Sujet qui m'intéresse. Et alors, c'est d'autant plus intéressant que, vous pouvez le constater, si vous vous intéressez à l'art et à l'histoire de l'art, vous avez des représentations fort ingénieuses des 7 vices, mais aussi des 7 vertus. À la fin du Moyen-Âge, et un peu même à la Renaissance, juste après, parce que l'art a pris un temps de retard par rapport à la théologie, on voit effectivement cette idée qui est très forte de dire « il faut remplacer le comportement qui ne va pas par un comportement qui est bien. Il faut remplacer la crainte par la foi. Il faut remplacer la colère par l'amour. En soi, ce n'est pas tant un problème. Le problème, il est beaucoup plus que si mon être intérieur n'est pas transformé, je vous promets que ça ne va pas durer plus de 5 minutes. Je peux faire semblant de vous aimer. 5 minutes, 10 minutes, peut-être un peu plus. Mais si je n'ai pas l'amour de Christ qui m'inonde et qui m'invite et m'encourage à vous aimer, ça ne sert à rien. Donc finalement, à la fin du Moyen-Âge, on était là à dire on remplace un comportement mauvais, méchant, par un comportement qui est bon. Et puis ça allait même plus loin parce que quand vous étiez un petit peu hérétique, évidemment, il fallait vous torturer pour votre corps, parce qu'il fallait réprimer le corps qui faisait des comportements mauvais pour que l'âme soit sauvée. Mes chers amis, nous croyons à la résurrection des corps. Le changement de comportement, ça ne dure pas et ce n'est pas efficace. Croyez-moi. Ce qui compte, c'est le changement de notre être intérieur qui va avoir des effets sur notre comportement. Marcher par la foi, marcher selon la conduite de l'esprit, c'est laisser le Seigneur diriger notre personne entière. On n'a pas besoin de choisir entre d'un côté les vices et de l'autre les vertus. Mais le combat spirituel, il est où ? Là-haut, les amis. C'est dans nos têtes que ça se passe. Est-ce que, alors que j'ai une pensée qui me traverse de juger telle ou telle personne, de critiquer, de dire du mal, etc., est-ce que je garde cette pensée ? Est-ce que je la cultive ? Est-ce que je vais même aller plus loin et avoir des actes qui me poussent à parler mal d'une personne ? Et si possible, en dehors de sa présence, c'est tellement plus agréable. Excusez-moi d'être un peu cynique. Ou est-ce qu'au contraire, je me dis, mais non, ce n'est pas une pensée qui est juste. Arrête de penser que tel frère ou sœur est malveillante à ton égard. Les églises sont faites de plein de gens, non pas malveillants, mais maladroits, et profondément maladroits. Et je suis désolé de vous dire, j'en fais partie. Quand je commence à voir les autres comme étant maladroits et non malveillants, croyez-moi, ça change de perspective. Parce que je me mets à arrêter de soupçonner le mal. Et c'est ça l'essentiel. Pour avoir la victoire, victoire de la foi, pour marcher selon l'esprit, il ne faut pas soupçonner le mal. Nous sommes invités à le rejeter, à garder le bien. La foi a donc une portée concrète dans nos relations. Rechercher le bien est tellement important. Rechercher la paix, si possible, avec tous les hommes, pour autant que cela dépende de vous. Mes chers amis, chercher la paix et être artisan de paix, ça ne veut pas dire se taire et excuser le mal. Trop souvent, j'ai eu l'occasion de constater dans des églises, quand il y avait un conflit, quand il y avait un problème, on met tout ça dans un pot, on laisse un couvercle dessus et on attend que ça fermente. Et on ne règle pas le problème. Ce n'est pas ça la paix. Ça, c'est ce que j'appellerais la pseudo-paix à tout prix où on ne fait pas de vagues. Non. Rechercher la paix dans les relations avec les autres, c'est oser mettre le problème sur la table, oser en parler et trouver un accord qui est satisfaisant pour les deux. Et ça, c'est un défi et ça demande du temps. Et ce n'est pas simple. La foi, chers amis, fait partie de notre caractère. La foi nous transforme. Et c'est le quatrième point que je voudrais souligner, dernier point. La foi réelle suppose une mise en pratique. Texte que Luther n'a pas beaucoup aimé. Épître de Jacques, chapitre 2, dit la chose suivante, au verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Mais montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi par mes œuvres je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, ils tremblent. Mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Il fut appelé ami de Dieu. Vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié, et non par la foi seulement. Alors ça, c'était un texte qui n'était pas tellement apprécié au temps de la Réforme. Parce que le problème, c'est que l'Église catholique romaine avait insisté pour dire « Seules vos œuvres vous sauvent ». Ils avaient balayé la foi. En plus, si vous connaissez un petit peu l'Écriture, vous savez que en Romains 4, Paul va dire, avec le même exemple d'Abraham, qu'il est justifié par la foi. Alors, chers amis, est-ce que la Bible est tellement mal fichue au point de se contredire? Excusez-moi de le dire comme ça. Eh bien, non. Parce qu'il y a une seule chose qui nous permet de lever cette contradiction apparente. Un mot, le contexte. Toujours le contexte. Quand vous savez à qui s'adresse Paul, quand vous savez à qui s'adresse Jacques, vous comprenez leurs propos. Paul a écrit aux églises de Rome pour leur exposer le plan du salut. C'est par la foi que vous êtes sauvés, par la foi seule. Qu'est-ce que fait Jacques? Il s'adresse à plusieurs communautés dans la tourmente et il leur dit « Eh oh les amis, vous êtes des chrétiens, vous dites que vous avez la foi, mais vos actes démontrent le contraire. Secouez-vous, bon sang de bois !» Vous n'avez peut-être pas dit comme ça, c'est moi qui l'interprète, mais c'est quand même la teneur du message de Jacques. Vous voyez, quand on comprend le contexte, on arrive à lever ces contradictions apparentes. Jacques veut inciter à développer une foi vivante et vraie, et surtout à ne pas se laisser démolir par les circonstances qui nous accablent. Quand Jacques écrivait, les communautés étaient persécutées. Elles avaient fort à faire avec les attaques qu'elles subissaient de part et d'autre. Et les communautés à qui Jacques s'adresse avaient tendance à se refermer sur elles-mêmes. Remarquez, il y avait quand même de la persécution. Ce n'était pas simple. Mais Jacques insiste pour dire « Notre foi ne dépend pas des circonstances. Notre foi ne dépend pas de mes émotions. » Il m'est arrivé d'une ou autre fois d'entendre « Ah, on a eu un bon moment ce matin, bonne réunion de prière, Dieu était présent, je me suis senti bien. » Mes amis, Dieu est toujours présent, Dieu est souverain, Dieu règne, il a toujours son mot à dire. Et même, les disciples ont demandé à un moment donné à Jésus, non, ce n'était pas les disciples, c'est quelqu'un d'autre qui a demandé à Jésus, « Augmente ma foi, je ne crois pas. Je veux croire, mais je n'y arrive pas. » Quelqu'un qui demandait une guérison pour son fils. Une incrédulité qui se traduit parfois par une lassitude, par une difficulté, par des circonstances, ou parce que j'ai pardonné une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, et ça continue. Et dans cet enseignement, Jésus ne se lasse pas de dire, c'est en Marc 9, 14 à 29, où il est question de la guérison de ce démoniaque, où son père avait appelé Jésus à l'aide, et lui dit « Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. » La foi n'est donc pas une réalité qui ne bouge pas. dans les épreuves, dans les difficultés, elle a besoin d'être encouragée, elle a besoin d'être soutenue et augmentée. Et c'est bien parce que nous sommes des hommes fragiles et des femmes fragiles que Dieu a imaginé ce miracle extraordinaire qu'est l'Église. Nous rassembler pour que nous vivions une réelle dynamique d'entraide et de soutien. Et je rêve que nos églises soient comme ça. Et je rêve que nous puissions vraiment nous soutenir, arrêter les impressions, les idées fausses, casser la pompe à rumeurs et à calomnies. Quel défi! Qu'est-ce qu'on a du mal à y arriver, hein, parce qu'on est pris dans l'engrenage. Je ne suis pas en train de vous juger en le disant. Hein. Ça m'arrive aussi, croyez-moi. On a besoin du secours de notre Dieu. L'objet de notre foi, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui s'est révélé à nous, d'abord par sa parole et ensuite par l'œuvre de Jésus-Christ. Je rêve et je suis convaincu que l'Église, en tant que communauté, a un rôle essentiel à jouer dans la relation d'aide, dans l'accompagnement des souffrances psychospirituelles. Pourquoi ? Parce que l'Église est un lieu de croissance pour les hommes et les femmes. Dieu vient à notre aide pour changer notre incrédulité en foi, pour nous aider à marcher de progrès en progrès. Voilà pourquoi la foi est appelée à être dynamique. Voilà pourquoi je suis appelé à me laisser transformer dans mon être intérieur pour marcher par la foi. Sacré défi, n'est-ce pas? Sola fides, la foi seule. Il y aurait tant et tant de choses à dire. J'ai essayé ce matin, en prenant appui sur les quatre textes, de souligner que d'autres fois doit être vivante, dynamique, une foi qui se met en action. La foi est en premier lieu un don de Dieu. Elle nous est donnée par Dieu. Dieu qui est lui-même la source de notre foi. C'est le Dieu trinitaire qui se révèle. Nous connaissons Dieu le Père par l'œuvre accomplie par Dieu le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et nous avons l'assurance par la foi que ce qui s'est produit est véridique, parce que c'est le Saint-Esprit qui le prouve. La foi a pour objet Dieu seul. La foi est un don de Dieu, elle est active dans l'œuvre du salut. Et cette œuvre du salut, deuxième point que je rappelle, elle est acte juridique. Nous sommes déclarés justes et nous sommes déclarés guéris du mal profond qu'est le péché, qui nous colle comme une tique à la peau. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur nous. Nous sommes guéris des maladies de la vie spirituelle et invités à marcher en nouveauté de vie. Vous saviez ça, que le péché n'avait plus aucun pouvoir sur vous? C'est tellement important de se le rappeler. Et pourtant, je continue à pratiquer le péché. J'ai beau être appelé à marcher dans la sainteté, je continue à pratiquer le péché. Mais on se réveille, Paul. On est invité à marcher par l'Esprit. Sacré défi. Un jour, je me souviens toujours, j'avais accompagné un jeune homme qui était pris dans des problématiques assez catastrophiques sur le plan sexuel. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais je me souviens avoir lu avec lui ce passage de l'Épître aux Romains, chapitre 5, 6, 7, etc. Et d'être émerveillé, quand il m'a regardé, il m'a dit « Mais finalement, quand je lis ça, je ne suis plus obligé de retomber systématiquement dans mon péché. J'ai envie de le faire parce que je sais qu'on va s'intéresser à moi, parce qu'on va venir me voir, on va me donner une tape sur l'épaule et j'irai mieux, etc. Mais c'est avec mon engagement de foi, je suis invité à ne plus pécher. » Au fond de moi, je me disais « Waouh, merci Seigneur, c'est impressionnant ce que tu viens de révéler à ce pauvre frère dans ses luttes. Maintenant, la question, c'est comment on va faire pour t'aider à tenir le cap ?» La foi est concrète. La foi se traduit en acte. Sola fides, ce n'est pas seulement une foi en parole, c'est une foi en acte. Alors, si vous avez qu'une chose à retenir de ce que je vous ai dit ce matin, l'objet de notre foi, c'est Dieu seul. Dieu seul qui s'est révélé par Jésus-Christ et qui nous invite à marcher à sa suite, à nous laisser transformer par ce qu'il a accompli pour nous. Alors, chers amis, que Dieu nous aide, vous aide, à marcher par la foi, à progresser dans la foi, à vous soutenir les uns et les autres. C'est là la réalité de l'Évangile. Eh bien, que Dieu nous aide, jour après jour, à le vivre. Je vous invite à la prière. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta grâce qui est donnée par l'œuvre de Christ accomplie à la croix. Nous te disons merci, Seigneur, pour l'Écriture qui nous parle de toi. Nous te disons merci, Seigneur, pour la personne de Christ qui s'est donnée pour nous. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu es toi, seul Dieu, Père, Créateur de toutes choses, qui règne du haut des cieux. Et nous te disons merci, Seigneur, parce que c'est toi qui nous as donné la foi. Nous voulons continuer d'avancer à ta suite. Nous voulons, Seigneur, te demander de parler à nos cœurs et de nous aider à grandir dans la foi. Seigneur, garde-nous de nous laisser détourner de toi par des impressions, par des circonstances qui nous accablent. Aide-nous, Seigneur, à te dire « Oui, je crois, mais Seigneur, j'ai besoin de ton aide pour croire davantage. Viens au secours de ma foi. Viens au secours de notre foi et aide-nous à progresser à ta suite, jour après jour. Que tu nous donnes de pouvoir marcher par ton esprit et que tu nous donnes, les uns et les autres, de pouvoir nous encourager. Je te prie pour ton Église ici-bas, dans sa représentation locale à Étupes et dans la présence des uns et des autres ce matin, dans ce qui a pu être partagé, que tu puisses aider chacun, tout au long de la semaine qui vient, à avoir une foi pratique, qui se met en action, qui reste centrée sur toi et qui est remplie d'amour et de compassion à l'égard des autres. Seigneur, bénis cette assemblée, bénis chacun des responsables, bénis les personnes qui la fréquentent. On veut te demander aussi de toucher ceux qui n'ont pas pu être présents ce matin, afin que tu sois auprès d'eux et que tu leur donnes à eux aussi de grandir par la foi seule.